n'y a pas de secret. Pour aller mieux, surmonter des obstacles ou encore réussir ses projets, il faut penser positivement.
Oui, c'est clair, mais c'est pas tout. Hein. Penser positivement, c'est bien, mais ça n'exclut pas d'agir ou d'envisager, en tout cas, le côté négatif des choses.
Et nous sommes justement avec le psychologue et formateur Yves Alexandre Talman, auteur du livre « Pensée positive 2.0 », la loi de l'attraction enfin expliquée. Bonjour Yves Alexandre Talman.
Bonjour.
La loi de l'attraction enfin expliquée, c'est quand même complexe, hein, ça fait quand même quelques pages.
Alors ça fait quelques pages, effectivement, parce qu'on décrypte les mécanismes psychologiques à l'œuvre dans la pensée positive. Ceci dit, je crois qu'il faut, être très très clair sur le sujet qu'on aborde. Quand on parle de pensée positive, on ne parle pas seulement d'optimisme. Hein, on ne parle pas simplement de voir la vie en rose ou de voir le verre à moitié plein. On parle de plus que ça. On parle de mobilisation de ressources ou, pour prendre un terme plus psychologique, de motivation, mettre en mouvement. Le but de la pensée positive, c'est de rendre effectivement la vie plus belle, plus douce, notamment par la réalisation de nos souhaits et par le fait d'atteindre les objectifs qu'on se fixe. C'est bien de ça dont il s'agit.
Alors, dans le titre du livre, la loi de l'attraction enfin expliquée. Alors, dans la pensée positive, on dit que pensée positive, ça attire des effets positifs, que si on se croit chanceux, on sera chanceux. Mais vous partez du constat qu'en physique, la loi de l'attraction, ça marche pas comme ça, c'est bien juste?
Alors, la loi d'attraction, il faut surtout la considérer comme une métaphore, c'est-à-dire une image qu'on utilise. Et effectivement, l'image, c'est une image d'électromagnétisme. À part que si on y réfléchit bien, elle est justement inversée, parce que chacun sait que le pôle nord d'un aimant attire le pôle sud et non pas le pôle nord. Et en électricité, c'est la même chose. Les charges négatives attirent le positif et le positif attire le négatif. Donc là, on a affaire à une métaphore. Je crois que si on veut vraiment comprendre, il faut aller un petit peu plus loin. Et c'est là où on a de nouvelles données maintenant qui nous permettent de saisir vraiment ce qui se cache derrière.
Aller plus loin, justement, ce que vous dites, c'est justement passer à la pensée positive 2.0. Il y a quelque chose à reprocher à la pensée positive 1.0 ?
Oui, c'est que son efficacité est limitée. Alors je crois que c'est là le grand truc. Hein. C'est que si on regarde ce qui se passe dans le développement personnel, qu'on écoute des conférences ou des auteurs parler de la pensée positive, ils nous vantent les mérites de pensée positive, ça attire le positif. Mais maintenant, il n'y avait personne jusqu'à il y a quelques années qui a décidé de mesurer de façon chiffrée, on va dire, les effets, à savoir quelles sont les meilleures techniques, entre guillemets, de pensée positive pour obtenir vraiment ce que nous souhaitons. Et du moment où on fait ça, ça a été fait à l'Université de New York par la professeure de psychologie Gabrielle Oettingen. On parle de plus de 20 ans de recherche qui est universitaire, donc qui est tout à fait officielle. On parle de dizaines de milliers de sujets. Et là, elle s'est rendue compte de quelque chose de tout à fait extraordinaire. Quand elle comparait les gens qui faisaient de la pensée positive pure, c'est-à-dire, par exemple, se représenter les scènes déjà réalisées de leurs désirs ou bien celles d'autosuggestion qu'avec des phrases positives, elle s'est rendue compte que c'était moins efficace que si ces gens incorporaient un élément supplémentaire qui est en fait les obstacles qui pouvaient se dresser sur leur route.
Alors, Yves-Alexandre, à ceux qui soutiennent que la pensée est énergie et que dès lors, ses effets sont réels, qu'est-ce que vous leur répondez ?
Je leur réponds qu'on est plutôt dans le domaine de l'hypothèse ou de la croyance, tout simplement parce que si on interroge les tenants de la communauté scientifique, c'est-à-dire qu'on va dans une faculté universitaire, puis qu'on propose cette hypothèse, les personnes interrogées vont répondre que non, elles n'ont pas d'arguments qui soutiennent ceci. Dans les milieux un peu alternatifs, oui, on trouve des gens qui ont ces hypothèses-là. Mais maintenant, moi par ailleurs, je suis aussi enseignant de psychologie, je ne peux pas me permettre de dire une chose comme ça, parce qu'il y a tous mes collègues qui vont me dire « Elles sont où tes preuves ?» Donc on n'est pas vraiment dans le domaine de la preuve ou de la science.